Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Bonjour Gaspard, bonjour à tous, bon samedi matin. Je suis ravie d'être en votre compagnie pendant une heure pour parler d'animaux de compagnie et de faune sauvage, bien sûr. Alors au programme aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir le chien préféré des Français. Selon le recensement effectué par la Société Centrale Canine, c'est désormais le berger australien qui arrive en tête des chiens que vous préférez. Le berger australien, c'est un chien magnifique qui a de quoi séduire, mais c'est aussi un chien délicat, alors gare aux effets de mode. On en parlera tout à l'heure en compagnie d'une éleveuse justement de berger australien. N'hésitez pas à nous appeler, à nous poser toutes vos questions, à nous faire part de vos témoignages si vous êtes propriétaire vous-même d'un berger australien. 0826 300 300, vous le savez, on vous attend au standard de Sud Radio. Et puis dans notre séquence à l'état sauvage, là encore, on va vous demander votre avis, on va vous laisser la parole. Le gouvernement a-t-il eu raison de prolonger la chasse aux oies cendrées jusqu'en février? On en parlera en compagnie d'un spécialiste, Pierre Rigaud. Mais n'hésitez pas à nous donner votre avis, 0826 300 300. Et puis dans C'est votre histoire, un joli projet qu'on va vous raconter ce matin. Un amoureux des animaux qui se lance dans une grande et belle aventure. Créer un zoo-refuge, ça va se passer près de Chartres, ça se passe d'ailleurs déjà puisque le projet a démarré, près de Nogent-le-Fay, on va vous en parler tout à l'heure, ce sera vers 10h45. Mais tout de suite, place à Gaspard et au journal des animaux.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Et alors Gaspard, on va démarrer avec une nouvelle incroyable. C'est une panthère noire qui a été photographiée.
Oui Natacha, une première depuis 1909 qui nous permet de confirmer sa présence en Afrique grâce à un système d'appareils avec capteurs mis en place dans le centre du Kenya. La capture des images a été rendue possible grâce à la mobilisation de chercheurs du zoo de San Diego qui étudiaient les léopards et au travail au même moment d'un photographe indépendant. Le léopard noir doit sa couleur différente à une mutation génétique appelé le mélanisme. Il cause un surplus de pigments sur le poil de l'animal, une spécificité, qui ne gêne pas son intégration avec ses congénères, puisqu'il a été vu avec d'autres léopards, mais qui explique évidemment sa rareté.
Mais écoutez, on va suivre ça de près parce qu'effectivement, c'est une belle nouvelle pour le monde animal. Alors, on va aller un peu plus près de chez nous, à Morinvilliers. Les riverains d'un refuge pour animaux ne supportent plus les aboiements.
Et oui. Les riverains du site implanté en bordure de la D113, c'est du côté des Yvelines, ont saisi la mairie, mais ils ont aussi lancé une pétition et prévenu la gendarmerie pour dénoncer les nuisances. Ils réclament des mesures pour mettre à terme à cette pollution sonore, certaine de sa bonne foi. La direction du site a organisé une visite du refuge destinée aux élus et aux riverains et conteste les aboiements incessants évoqués donc par ces riverains. À la demande de la Fondation, une étude acoustique a également été menée afin de mesurer le niveau des aboiements et le verdict est sans appel. Le refuge est en dessous des normes en vigueur concernant le bruit.
C'est vrai que c'est un problème. À chaque fois qu'il y a un refuge, les riverains à proximité se plaignent des nuisances sonores et souvent il faut en arriver à ce type de procédure. Vous voulez nous parler de voiture ce matin, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes trompé d'émission, Gaspard.
Eh bien non, je sais que ça roule, c'est dans une heure, mais aux États-Unis, certains parlementaires militent pour que soient exemptées de toute poursuite judiciaire les personnes qui briseraient les vitres d'une auto pour sauver un animal enfermé dans un véhicule.
Mieux.
Car laisser son animal dans son auto verrouillée est en effet un acte plutôt cruel, surtout lorsque les températures sont très élevées. Une problématique qui a donné des idées à Tesla, vous savez qui est cette marque de voiture électrique qui officialise aujourd'hui le Dog Mode, une fonction qui va permettre de paramétrer une température ambiante pour son plus fidèle compagnon afin qu'il soit dans le plus grand confort lorsque l'on doit aller faire une course par exemple. Les grands écrans de Tesla afficheront un message qui indiquera aux passants que l'auto est en mode chien et que le toutou se repose donc dans de bonnes conditions avec une température idéale que ce soit en hiver comme en été.
Ça marche aussi pour les enfants ?
Ah, ça, je ne sais pas. Bon, mais en tout cas, ça marche pour les chiens.
Merci Gaspard pour ces infos insolites. Allez, tout de suite, c'est l'heure de vos animaux et vous. Et on va parler du berger australien, ce chien magnifique. Mais attention, un chien un peu compliqué parfois à ne pas mettre dans toutes les mains.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Alors la Société Centrale Canine, chaque année, fait son palmarès des chiens préférés. Et figurez-vous donc que cette année, enfin pour l'année 2017, c'est le berger australien qui est devenu pour la première fois le chien de race préféré des Français, puisqu'il a enregistré le plus de naissances au livre des origines françaises. Plus de 12 000 naissances, presque 13 000 naissances enregistrées pour 2018. Et c'est la première fois que le berger australien est sur la première marche du podium. Il devance le berger belge et puis le Staffy. Alors pour nous parler de ce fameux berger australien, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui une éleveuse justement de berger australien. Bonjour Marie Reynaud.
Bonjour Natacha.
Merci Marie d'être avec nous ce matin par téléphone. Vous êtes loin, vous êtes en montagne exceptionnellement. On en parlera tout à l'heure à la fin de l'émission parce que vous faites aussi des sorties en traîneau pour chiens avec des bergers australiens. C'est une petite anecdote que vous allez nous raconter tout à l'heure. Mais pour l'heure, Marie, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu la particularité de ce berger australien. C'est un chien que vous élevez en Mayenne. Votre élevage s'appelle l'élevage du chemin des Korrigans. Ça fait combien de temps, Marie, que vous élevez des bergers australiens ?
Alors maintenant, ça va faire 11 ans que Jean-Marc, mon compagnon, et moi-même élevons des bergers australiens, sachant que la race a été reconnue officiellement en France en 2007.
Alors justement, j'aimerais qu'on explique un peu d'où vient cette race qui, il y a encore assez peu de temps, finalement, n'était pas très connue sur notre territoire. Est-ce que le berger australien est vraiment australien comme son nom l'indique, Marie ?
Alors, il est australien, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, au départ, la légende veut que ce soit des bergers basques qui soient partis avec leurs chiens en Australie. Parce que c'était un pays avec beaucoup de moutons, où il y avait beaucoup de production de laine. Ils ont commencé en fait à faire reproduire leurs chiens avec des chiens locaux. Et ensuite, au 19e siècle, ils sont partis aux États-Unis avec ces mêmes chiens. Et là-bas, aux États-Unis, voyant ces bergers qui venaient d'Australie, on a appelé le chien le berger australien. Mais son nom officiel, c'est le berger australien d'Amérique, puisque c'est aux États-Unis que la race a été sélectionnée et fixée.
Et au fil du temps, la mode a évolué un petit peu et on a aussi sélectionné des bergers australiens de plus petite taille qui s'appellent les mini-bergers américains.
Voilà, les bergers américains miniatures, effectivement.
Et ces mini-bergers, ce sont en fait des bergers australiens qui ont toute l'apparence du berger australien, mais simplement la taille est plus petite, c'est bien ça?
Alors, je ne suis pas éleveuse de berger américain, donc je ne pourrais pas m'avancer de façon assez pointue, mais c'est vrai que d'apparence, les bergers américains miniatures ressemblent à des petits bergers australiens. Ils doivent en avoir l'apparence, mais aussi certains traits de caractère.
Alors vraiment, ce berger australien aujourd'hui est un chien qui a la cote parce que d'abord, c'est un très beau chien. C'est un chien très intelligent aussi. Quels sont les standards particuliers de cette race, d'abord en termes d'apparence, avant de parler de son comportement ?
Alors déjà, c'est un chien de taille moyenne. C'est d'ailleurs ça qui a favorisé, je dirais, l'engouement pour le berger australien, parce que c'est un chien qui fait 20-25 kilos. Donc, tout le monde peut s'imaginer avec un chien de ce gabarit chez lui.
Oui, ça paraît être un chien plutôt facile à gérer dans le quotidien.
Voilà, exactement, en termes de gabarit. Ensuite, je dirais que la particularité du berger australien, c'est sa variété de couleurs et son poil. Donc, il a un poil mi-long. Et il a tout un panel de couleurs. Les quatre les plus connus sont le noir tricolore, le rouge tricolore, le bleu merle et le rouge merle.
Peut-être faut-il expliquer ce que sont le bleu merle et le rouge merle, Marie.
Alors en fait, le bleu merle, c'est une dilution du noir tricolore. Donc ça s'exprime en fait comme des petites taches, en fait. Un manteau gris avec des petites taches noires sur le chien. C'est d'ailleurs une couleur qui l'a fait beaucoup connaître parce que assez particulière.
C'est une couleur assez recherchée, j'imagine.
Alors oui, effectivement, pour les néophytes, les couleurs merles sont attrayantes, donc vont être tout de suite l'objet d'engouement et de recherche auprès des éleveurs.
D'ailleurs, n'hésitez pas, vous aussi, si vous êtes auditeur de Sud Radio ce matin, que vous écoutez cette émission qui concerne le berger australien, si vous souhaitez faire l'acquisition d'un berger australien ou si vous êtes propriétaire d'un berger australien, on vous attend au standard de Sud Radio 0826 300 300 pour juste justement nous faire partager vos expériences en la matière ou nous poser vos questions, puisque nous sommes en compagnie d'une spécialiste, Marie Reynaud, qui est éleveuse de bergers australiens. Alors Marie, on a parlé là des couleurs du pelage. Le berger australien, il a un pelage particulièrement doux d'ailleurs, il faut le signaler.
Oui, alors bon, surtout s'il est bien entretenu, mais je dirais que la particularité de son pelage, c'est surtout cette espèce de double manteau. Il y a en fait un sous-poil qui permet aux chiens de se protéger du froid et un poil de couverture, donc celui qui a l'aspect doux, qui va être nylon et qui est aussi imperméable, donc qui permet à ce chien de se baigner, de faire des activités à l'extérieur sans souffrir.
Et au niveau de la couleur des yeux, là encore, ça fait certainement partie des raisons qui expliquent cette mode du berger australien, parce qu'ils ont des yeux particulièrement beaux et étonnants.
Effectivement, donc toutes les couleurs sont autorisées chez le berger australien. Donc on voit des yeux noirs, des yeux marrons, des yeux verts, des yeux ambre et des yeux bleus qui sont aussi recherchés par les néophytes. Pour la petite histoire, en fait, quand les bergers basques venant d'Australie sont arrivés aux États-Unis, donc ils sont arrivés avec ces chiens qui avaient des yeux bleus et les Indiens les appelaient les chiens aux yeux fantômes.
Eh bien, écoutez, on va rester ensemble pour continuer à parler de ces chiens aux yeux fantômes. N'hésitez pas à composer le 0826-300-300. On marque une petite pause et on continue après. On va parler du tempérament, justement, de ces bergers australiens et de la nécessité aussi de les éduquer. À tout de suite.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Et ce matin dans vos animaux, nous faisons un focus sur le berger australien, qui est devenu le chien préféré des Français. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Marie Reynaud, qui est justement éleveuse de bergers australiens. Son élevage s'appelle l'élevage du chemin des Korrigans. Alors Marie, on a décrit les caractéristiques physiques de ce berger australien, qui explique en partie certainement pourquoi il est devenu autant à la mode. Mais le berger australien, il faut quand même le préciser, ce n'est pas un chien à mettre entre toutes les mains parce qu'il a un tempérament qui est quand même bien trempé.
Oui, c'est un chien qui est déjà très dynamique, donc qui ne va pas correspondre à des personnes trop sédentaires. C'est aussi un chien très intelligent, donc un chien intelligent va être assez filou aussi avec son maître. Après, effectivement, il a toutes les qualités du chien de berger, donc un chien très proche de l'humain, qui va vouloir protéger sa famille, un chien qui va être attachant, qui va pouvoir faire beaucoup d'activités parce que très polyvalent. Tout ça explique l'engouement pour le berger australien. Ce n'est pas un chien facile, mais c'est vrai que c'est un chien qui a tellement de qualités que tout de suite, ils montrent beaucoup d'attrait. Voilà, les gens ont vraiment beaucoup d'attrait pour ce chien.
Mais évidemment, si on vit en appartement et qu'on n'a pas la possibilité de sortir beaucoup, de faire des activités physiques avec lui, ce n'est pas le chien qui convient à ce mode de vie-là.
Voilà, alors l'appartement, ça ne va pas être un souci en soi. Par contre, effectivement, c'est un chien qui nécessite beaucoup de temps. C'est pas le chien qu'on peut laisser chez soi à longueur de journée, qui va faire potiche dans le jardin ou dans l'appartement. C'est un chien qui a besoin de faire des activités physiques et mentales avec son maître. Donc effectivement, il ne va pas correspondre à tout le monde.
Alors, vous le disiez, c'est un chien particulièrement intelligent, c'est un chien de travail. Hein. Il a été sélectionné sur des générations justement en raison de ses capacités à travailler aux côtés des humains. Donc ça veut dire qu'en termes d'éducation, c'est aussi un chien qu'il faut éduquer avec beaucoup de précision finalement.
Oui, et très jeune. C'est vrai que c'est un chien qui capte très vite ce qu'on attend de lui. Mais il faut l'éduquer dès son plus jeune âge.
À partir de quel âge vous conseillez de l'éduquer ? Dès 2 mois ?
Oui, dès l'arrivée à la maison. Les séances d'éducation doivent être très courtes. Mais effectivement, dès 2 mois, il faut qu'il y ait des règles à la maison pour que humains et chiens vivent en bonne intelligence.
Parce que vous le disiez, comme c'est un chien très intelligent, il est aussi très malin et finalement, il sait facilement arriver à ses fins si on ne lui met pas tout de suite des limites, si on ne lui fait pas comprendre ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire.
Voilà, exactement. En fait, le berger australien va tout de suite comprendre les faiblesses de son propriétaire et essayer de les retourner contre lui. Donc c'est un chien qui est très malin.
N'hésitez pas à composer le 0826 300 300, justement si vous souhaitez faire l'acquisition d'un berger australien ou si vous souhaitez vous exprimer sur ces modes qui mettent en avant certaines races. Et puis derrière, on le sait très bien, quand des races sont mises en avant comme ça, de manière parfois un petit peu excessive et sans faire attention à ce que signifie le fait de posséder tel ou tel type de chien, eh bien ça débouche sur des abandons, on le sait trop bien. Alors Marie, est-ce que vous pouvez nous conseiller nos auditeurs qui souhaiteraient faire l'acquisition d'un berger australien, comment trouver le bon élevage? Comment s'y prend-on? Cette question n'est pas évidente.
Oui, effectivement, c'est pas évident parce que déjà, il y a beaucoup de naisseurs de bergers australiens. Donc, il y a une multitude d'offres à tous les prix.
Combien ça vaut d'ailleurs un berger australien quand on l'achète dans un élevage?
Alors, en moyenne, il faut compter 1200 euros.
1200 euros.
Le prix moyen. Voilà, d'accord. Le prix moyen pour un chien inscrit au LOF dont les parents ont été testés pour les tares, dysplasie des hanches, dysplasie des coudes et tare oculaire chez un ophtalmologue.
Alors justement, on va revenir après sur les conseils pour trouver le bon élevage. Mais puisque vous nous parlez de ces problèmes de santé, comme beaucoup de races de chiens, il y a des maladies génétiques qui sont liées à la race. Et donc, il faut faire attention quand on fait l'acquisition d'un chiot, éviter justement de tomber sur un animal qui va être porteur de ces problèmes génétiques. Vous nous parliez des tares oculaires, donc comment ça se passe à ce niveau-là?
Alors en fait, il existe plusieurs tests. Il existe en fait un test chez un ophtalmologue. Comme nous, humains, on peut aller chez un ophtalmologue pour voir à un instant T si le chien a une maladie oculaire. Et il existe également des tests génétiques qui permettent de savoir si le chien est complètement indemne ou s'il est porteur ou s'il est atteint de cet art oculaire. Donc c'est très important, lorsqu'on souhaite faire l'acquisition d'un chiot berger australien, de demander à son éleveur, l'éleveur qu'on a choisi, de montrer les tests qui ont été faits sur les parents. Parce que les tests ne sont pas faits sur les chiots, mais sur les parents.
Et normalement, l'éleveur doit être capable de produire ses tests. S'il ne le fait pas, il faut s'inquiéter.
Voilà, si l'éleveur ne peut pas montrer les originaux de ses tests, c'est que vraisemblablement, il ne teste pas. Il existe également des bases de données sur le site de la centrale canine où tous les chiens inscrits au LOF sont recensés et où on peut voir également certains tests apparaissent en fait sur ces bases de données et on peut vérifier si les tests ont été bien faits.
Alors la capacité de produire ces tests, c'est un premier point de vigilance quand on choisit son élevage. Qu'est-ce qu'il faut regarder encore et quelles sont les bonnes questions à poser lorsqu'on rencontre l'éleveur?
Alors déjà, je dirais qu'il vaut mieux s'adresser à un spécialiste. Alors quand j'entends par spécialiste, quelqu'un qui élève cette race et peut-être une ou deux autres, mais pas quelqu'un qui fait du multirace, qui a 10 ou 15 races. On ne peut pas être spécialiste de 10 ou 15
de tout,
races.
C'est sûr.
Voilà, exactement. Donc déjà, quand on s'adresse à un spécialiste, on peut avoir certaines garanties qu'on n'aura pas avec quelqu'un qui élève plusieurs races. Ensuite, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à téléphoner à cet éleveur, échanger avec lui, puis ensuite se déplacer sur les lieux pour pouvoir rencontrer des adultes, des chiots.
Oui, on ne choisit pas un chiot sur photo, sur Internet. C'est ça?
Non. C'est vrai que c'est tentant de choisir sur Internet avec le beau chiot bleu merle aux yeux bleus.
Parce qu'on craque forcément, mais ça ne suffit pas.
Sur la peluche, voilà. On craque sur la peluche, mais il faut venir rencontrer les adultes pour se rendre compte si soi-même on peut vivre avec un berger australien. Il y a une différence entre ce qu'on peut lire sur Internet et puis la réalité des choses.
Bien sûr. Et on demande aussi, bien sûr, à voir la maman.
Bien sûr.
Parce que le papa n'est pas forcément sur place. Il y a des échanges de reproducteurs entre les éleveurs, mais la maman doit être sur place et avec ses chiots.
Exactement. Donc, pouvoir rencontrer la maman, pouvoir voir la fratrie, si ce n'est pas le dernier petit chiot de la portée. Et puis, aussi, se rendre compte dans les échanges avec les éleveurs. L'éleveur qui va inspirer confiance, on s'en aperçoit, ou alors l'éleveur qui est juste dans un discours commercial.
Bien sûr. Marie, j'aimerais maintenant qu'on parle d'une association dont on a déjà parlé dans cette émission, ce sont les Chiens du Silence, parce que justement, vous élevez des bergers australiens pour cette association. Pouvez-vous nous rappeler quelle est la mission de ces Chiens du Silence?
Alors en fait, les Chiens du Silence éduquent donc des bergers australiens en vue de les remettre gratuitement à des personnes sourdes ou malentendantes. Donc ce sont des chiens d'assistance aux personnes malentendantes.
C'est une vocation des chiens d'assistance qui est assez mal connue et ça démontre à quel point justement les bergers australiens sont des chiens extrêmement proches de l'homme et capables de faire beaucoup de choses quand on leur apprend.
Voilà, et puis en plus, pourquoi le choix du berger australien ? C'est du fait de son intelligence et le fait que toute sa vie, il va pouvoir apprendre des sons qui ne lui ont pas été appris. Donc de lui-même, il va pouvoir en fait continuer à se former tout au long de sa vie.
Parce que comment se passe le travail de ces chiens qui accompagnent des personnes sourdes ou malentendantes ? Que font-ils au quotidien ?
Alors en fait, ils doivent prévenir leur propriétaire de tous les sons qui les entourent, donc le bébé qui pleure, le four à micro-ondes qui vient de sonner, une alarme incendie. Donc le chien, en fait, se dirige vers son propriétaire, le touche et lui montre la direction du bruit.
Et alors, dans un tout autre registre, je le disais en démarrant cette séquence avec vous, que vous attelez des chiens, des bergers australiens pour en faire des chiens de traîneau. Ça, c'est assez rare quand même. J'imagine que vous êtes peu nombreux à faire du mushing avec des bergers australiens.
Voilà, donc en fait, mon mari Jean-Marc, depuis 4 ans, a rejoint le musher Petit Pas d'Animal Nature. Et donc, tous les deux travaillent en fait sur les stations des Menuires et de Val Thorens. Ils attellent des bergers australiens, entre autres, pour faire du traîneau.
Eh bien, écoutez, merci pour cette découverte. Marie Reynaud, je rappelle donc que vous êtes éleveuse de bergers australiens. Votre élevage s'appelle l'élevage du chemin des Korrigans. Merci pour toutes ces informations et attention, chers auditeurs de Sud Radio, de vos animaux, gare aux modes. Il faut vraiment réfléchir avant de prendre un chien. Il ne faut pas simplement craquer sur un physique, même s'il est vrai que ces bergers australiens sont des chiens absolument magnifiques. Voilà, c'était le petit conseil du jour. Dans quelques instants, on va se retrouver pour parler notamment de faune sauvage et il sera question de la situation des oies cendrées. Je vous demande votre avis dans Sud Radio ce matin. Comprenez-vous les raisons du gouvernement qui aujourd'hui autorise la chasse aux oies cendrées jusqu'à la fin février alors que précédemment la période de chasse était beaucoup plus courte. Pardon. À tout de suite. On se retrouve dans quelques instants pour parler justement de ces oies cendrées.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Merci d'écouter Sud Radio, merci d'écouter vos animaux au programme pour poursuivre notre émission dans notre séquence à l'état sauvage. Donnez-nous votre avis. Le gouvernement a-t-il eu raison de vouloir prolonger la chasse des oies cendrées ? D'ailleurs, cette prolongation a été finalement arrêtée puisque les associations de protection animale ont eu gain de cause. Néanmoins, cela a soulevé le débat et on en parle ce matin dans vos animaux. Et puis, à la fin de cette émission, nous parlerons d'un zoo refuge qui est en construction. Ce sera tout à l'heure. Vous allez voir un très très beau projet, un refuge à la fois pour animaux de compagnie mais aussi pour faune sauvage. Mais tout de suite, c'est l'heure d'À l'état sauvage.
Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
Alors, pour parler de cette situation des oies cendrées, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau cette semaine Pierre Rigaud. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Pierre, vous êtes naturaliste, vous connaissez très très bien ce sujet. Les oies cendrées ont suscité un véritable débat puisque le gouvernement français souhaitait prolonger la période de chasse autorisée de ces oies cendrées jusqu'à fin février. Finalement, les associations de protection animale, la LPO en tête, ont obtenu gain de cause et cette chasse est interdite. C'est arrêté dans les périodes qui étaient normalement autorisées, c'est bien cela ?
En fait, la chasse des oies est autorisée depuis le mois d'août jusqu'au mois de janvier et l'État voulait prolonger en février et c'est cette prolongation qui a été suspendue il y a quelques jours par les tribunaux.
Pourquoi l'État voulait-il prolonger cette période de chasse d'un mois ?
En réalité, il n'y a pas vraiment de raison si ce n'est permettre aux chasseurs de chasser un mois de plus, tout simplement. Hein. C'est vraiment sous la pression de certains chasseurs que cette prolongation chaque année est faite par les ministères de l'écologie et chaque année les associations de protection des animaux et de la
doivent
nature
doivent combattre.
Voilà, absolument. Parce que tout simplement, cette prolongation est illégale par rapport à la réglementation européenne. Parce que les oies cendrées, à partir de fin janvier, commencent à reprendre leur migration pour retourner vers la Scandinavie où elles vont se reproduire. Or, en Europe, il est interdit de chasser les oiseaux pendant leur migration de retour vers leur quartier de reproduction.
D'ailleurs, la LPO a eu gain de cause, hein, je crois, une dizaine de fois devant le Conseil d'État contre toutes les tentatives précédentes d'allongement de cette période de chasse. Alors, on pourrait se dire, bon, bah, ça va s'arrêter un jour, puisque à chaque fois, il y a des tentatives et puis finalement, ça échoue. Non, là, cette année, le gouvernement a annoncé, a utilisé une sorte de prétexte, disons que finalement, ces oies cendrées créent des nuisances. C'est quoi les nuisances en question ?
Oui, alors c'est un peu la nouveauté dans l'argumentation des ministères. Les nuisances, on accuse les oies de causer des dommages, notamment aux cultures agricoles, ou de causer des dommages, par exemple, sur, en tout cas des troubles sur les aéroports et notamment aux Pays-Bas. Or, il se trouve que les oies cendrées qui passent l'hiver en France ou en Espagne et qui remontent en traversant la France au mois de février ne sont pas les mêmes que les oies cendrées qui vivent aux Pays-Bas et qui, elles, sont sédentaires. Nos oies, entre guillemets, elles font que traverser les Pays-Bas pour aller se reproduire en Scandinavie. Donc, l'argument selon lequel les oies causent des problèmes sur les aéroports, notamment aux Pays-Bas, est absolument invalide puisque ce ne sont pas les mêmes oies, tout simplement.
Est-ce que vous pouvez nous parler justement de la situation de ces oies cendrées ? Alors, on ne va pas faire un débat de chiffres parce qu'il y a les chiffres du gouvernement et il y a les chiffres des associations de protection animale qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais grosso modo, est-ce que ces oies cendrées se portent bien aujourd'hui ?
Oui, absolument. Les populations d'oies cendrées, c'est une chance, sont en croissance depuis pas mal d'années, donc on peut s'en réjouir du fait que c'est un oiseau qui est, ce sont des oiseaux qui étaient autrefois très rares et qui deviennent presque communs aujourd'hui. Malheureusement, dès que des oiseaux sont communs ou redeviennent communs, on a tendance à confondre ça avec une espèce de pullulation ou de prolifération, ce qui n'est pas vraiment le cas. Et les oies cendrées, sont, en plus de la réalité concrète et biologique, c'est vraiment, à mon avis, d'ailleurs, tout notre imaginaire, parce que ce sont les oies sauvages qui volent en V, c'est Nils Holgersson sur son oie qui traverse la Suède, enfin, c'est tout cet imaginaire aussi. Et les oies cendrées en France sont finalement pas si nombreuses que ça, c'est, on parle de quelques milliers d'individus, hein, sans aller dans le détail, donc c'est pas non plus...
On les trouve où ? Expliquez-nous un peu comment elles vivent, ces oies cendrées.
Alors, elles sont assez fidèles, elles vivent en couple et elles se reproduisent donc... dans plusieurs régions d'Europe de l'Ouest et notamment pour ce qui nous concerne en Norvège. Et ensuite, elles partent passer l'hiver soit en France, soit en Espagne, surtout sur le littoral, mais pas seulement. Alors, elles aiment bien les endroits un petit peu espacés, dégagés. Et ce sont en fait pas seulement des oiseaux aquatiques, c'est un petit peu des tondeuses sur pattes, faut bien dire. Et c'est pour ça aussi que des fois, on les accuse un peu de...
Elles ont mauvaise réputation auprès des cultures.
Oui, parce que ce sont des oiseaux herbivores qui ont un bec assez adapté au fait de brouter, tout simplement. Oui. Donc c'est vraiment des brouteuses et elles vont comme ça passer la tondeuse sur les prairies en bord des milieux aquatiques. Donc elles vivent surtout sur les littoraux ou au bord des lacs, mais pas seulement. On peut voir des oies cendrées passer en migration dans n'importe où en France.
Et comment se fait-il que les chasseurs s'intéressent particulièrement à ces oies cendrées ? Enfin, les espèces chassées sont très nombreuses. Pourquoi chaque année revenir à la charge pour essayer de chasser davantage ces oies ?
Ah, je pense que je ne suis pas chasseur, vous l'aurez compris, mais je pense que de leur côté...
On l'avait bien imaginé, Pierre.
Il y a aussi un imaginaire, les oies sauvages, la migration des canards et des oies, ça intéresse aussi beaucoup les chasseurs. On parle là des oies cendrées, mais il y a en fait beaucoup d'espèces différentes. Il y a d'autres oies d'ailleurs, et de canards sauvages auxquels s'intéressent beaucoup les chasseurs. De leur côté, c'est surtout la chasse à la hutte, ou au gabion, ou à la tonne, c'est les différentes appellations de ce mode de chasse qui concerne les oies, à savoir des sortes de cabanons à moitié enterrés sur les bords des étangs, ou même immergés dans l'eau. Et les chasseurs se chassent là-dedans pour tirer sur les oies qui se posent, ou les canards à la tombée de la nuit. Donc c'est une chasse très particulière qui se pratique après la tombée de la nuit, d'ailleurs ce qui rend très difficile l'identification de ces oiseaux, parce qu'entre une oie cendrée qui peut être chassée et d'autres oies, les oies rieuses, les oies des moissons qui ressemblent beaucoup et dont les périodes de chasse ne sont pas exactement les mêmes, ou parfois qui ne peuvent pas être chassées, c'est très difficile de faire la distinction.
Est-ce qu'il y a des oies justement qui sont totalement protégées, qu'on ne peut pas du tout chasser ?
Il y a des oies qui ne font pas partie des oies grises, donc les oies cendrées avec les oies des moissons, les oies rieuses sont les oies grises et d'ailleurs font partie des ancêtres des oies domestiques, des oies de basse-cour qui ont un petit peu la même allure grise. Par contre, il y a des oies comme les bernaches cravants, les bernaches nonnettes qui sont un petit peu plus petites et qui ne sont pas vraiment grises et qui sont noires et blanches, et qui aussi hivernent sur le littoral français, qui, elles, ne font pas l'objet du tout des mêmes chasses.
On prend la direction de Cahors. Marielle a composé le 0826-300-300. Bonjour Marielle.
Oui, je vous remercie de...
Bonjour Marielle.
Je vous remercie de m'accueillir. Bonjour. J'appelle sur pour les oies cendrées. Je félicite déjà la LPO énormément parce que ça me tient à cœur. Et notamment pour vous signaler que moi je suis dans le MK, j'ai quand même un hectare autour de chez moi, mais j'ai des palombes qui sont pourchassées là autour de ma maison, des chevreuils, et donc voilà, ça me...
Ça vous fend le cœur?
Ça me fend le cœur, tout à fait. Comme on dit à Marseille.
Merci beaucoup, Marielle, pour votre témoignage.
J'ai des palombes, pardon de vous interrompre. J'ai des palombes qui sont enfermées là toute l'année chez des voisins, dans une espèce de cage grillagée. Bon, alors, je devais déjà le signaler. Je n'aime pas dénoncer, mais elles sont... Elles sont enfermées, quoi, avec ces chaleurs, ça me fend le cœur encore, énormément.
On a bien compris votre message, Marielle. Merci d'avoir témoigné au standard de Sud Radio. Vous avez composé le 0826-300-300. Pierre Rigaud, c'est difficile de concilier la chasse d'un côté, qui peut parfois être nécessaire pour réguler certaines espèces animales.
Ça se discute.
Et puis, je me fais aussi l'avocat de tous les auditeurs de Sud Radio. Et puis, la préservation des espèces sauvages. Est-ce qu'il y a des contrôles, par exemple, sur ces oies cendrées? Est-ce qu'on sait combien sont prélevées chaque année? Est-ce qu'on est capable de quantifier le nombre d'animaux tués?
C'est un grand problème de la chasse, pas seulement des oies cendrées, mais de la chasse en général, c'est que les chasseurs n'ont pas l'obligation, sauf cas particulier, de dire combien d'animaux précisément ils ont tués. Donc, on a des estimations. On sait par exemple qu'environ 10 000 oies cendrées sont tuées pendant la période entre guillemets ordinaire de chasse de septembre à janvier. Et pour ce qui concerne le détail, on ne sait pas bien, et même souvent les chasseurs ne savent pas vraiment déclarer s'il s'agit précisément d'oies cendrées ou d'oies rieuses, d'oies des moissons dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est une des difficultés en fait. Après, le problème entre guillemets de la cohabitation entre des pratiques comme la chasse des oies cendrées et les autres se pose toujours parce que faut bien dire que franchement, les chasseurs demandent toujours plus à chasser. Par exemple, là, il y a quand même 6 mois quasiment de chasse d'oies cendrées.
Oui,
les chasseurs veulent encore un mois de plus.
La parfaite illustration.
Absolument. D'où les difficultés de cohabitation, d'où les difficultés pour, d'ailleurs, les gouvernements, quels qu'ils soient, parce que ça fait 10 ans que ça dure, quelles que soient les personnes en place, de respecter la réglementation européenne, tout simplement. Et d'où le fait que des associations de protection de la nature doivent dépenser de l'énergie, de l'argent et du temps pour simplement demander aux gouvernants de respecter la loi, tout simplement.
Comment ça se passe dans les autres pays européens qui sont concernés par ces espèces?
Il y a beaucoup moins de chasseurs proportionnellement à la population générale pour la plupart des pays européens. Ce n'est pas le cas pour tous les pays, mais pour la plupart. Et il y a beaucoup moins de pression politique. Donc, la chasse existe aussi. Mais, par exemple, en Espagne, les oies cendrées ne sont pas chassées. Donc, ce sont les oies qui traversent, pour l'essentiel, la France en février, proviennent d'Espagne. Il y a des pays du Nord où elles sont chassées. Il y a des pays qui accueillent beaucoup plus d'oies en France parce que les oies sont tout simplement mieux acceptées, mieux accueillies. Donc, il y a des situations très différentes, mais la pression... des chasseurs en France, sur le plan politique, elle est particulièrement forte.
Quand vous dites mieux accueillis, de quelle manière on peut finalement favoriser l'arrivée de ces oies sur notre territoire, hein?
Alors, elles ne demandent pas grand-chose, si ce n'est qu'on leur laisse un petit peu de place. Et d'ailleurs, les oies cendrées, il faut quand même se réjouir du fait que la population d'oies cendrées augmente, et que donc c'est plutôt une réussite, dans le sens où simplement le fait de quand même pas tirer dessus de façon illimitée et indéfinie, ça permet que ces oies se reproduisent donc ailleurs, parce qu'elles se reproduisent un tout petit peu en France, et ça permet qu'elles s'installent par-ci, par-là, et notamment maintenant, on voit quand même des oies cendrées se reproduire dans plusieurs départements, dans une vingtaine ou une trentaine de départements français. Donc, mieux les accueillir, c'est simplement les laisser un petit peu tranquilles, elles ne demandent pas plus que ça.
Elles se reproduisent où, à quel endroit, comment ça se passe? Est-ce qu'elles font des nids au sol? Expliquez-nous un peu.
Oui, alors elles vivent au sol. Ce sont des animaux qui ont besoin de voir loin pour voir venir leurs prédateurs. C'est des grands oiseaux, 3-4 kilos. Pour un oiseau, c'est beaucoup. Tout le monde a en tête l'image d'une oie de basse-cour. C'est un petit peu ça, quand même, en plus léger pour les oies sauvages. Mais ce sont des oiseaux qui vivent donc en couple et font leur nid au sol, simplement en se faisant toute petite cuvette. Et puis, les jeunes oies, qu'on appelle les oisons, sont ce qu'on appelle nidifuges. Ça veut dire que dès qu'ils sont nés, quasiment, ils sont emplumés et ils peuvent aller gambader. C'est le propre de beaucoup d'oiseaux qui nichent au sol, contrairement aux oiseaux qui nichent dans les arbres et dont les poussins restent très fragiles et complètement dépendants. Là, les jeunes oies suivent leurs parents, en fait, pendant quelques semaines, quelques mois. Et la petite famille vit comme ça avant qu'elles partent en migration, parce que la plupart des oies cendrées sont migratrices. Donc, elles ont ensuite quand
et
même plusieurs milliers
de kilomètres à faire. Et comment se passe leur migration ?
Alors, la migration, elles partent avec ces fameux vols en V que tout le monde a déjà vu, au moins dans l'imagerie collective.
C'est vrai que quand on pense aux oies cendrées, on pense à ce vol en V.
Et oui, ce qui est très pratique, simplement sur un plan aérodynamique, parce que celle qui est devant, c'est elle qui a le plus de résistance à l'air. Donc, c'est comme les cyclistes au Tour de France, on les voit qui font des rotations. Ouais. Là, celui qui est en tête du groupe, il passe derrière. Bah, c'est exactement, en fait, ça a été
c'est
copié.
Très structuré, hein, finalement, structuré. Très organisé.
Oui, il y a une sorte de rotation comme ça. Celui qui est en tête à la pointe du V, enfin, celle, l'oie qui est en tête du V, change régulièrement. Et elle parcourt comme ça des milliers de kilomètres, à la fois jour et nuit, pour aller dans les quartiers d'hiver qu'elles connaissent et leur chemin.
Elle retourne toujours au même endroit ?
Dans les mêmes secteurs, oui. Alors ça change au fil des décennies, au fil des générations, mais grosso modo, c'est les mêmes trajets. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'elles sont attendues par les chasseurs chaque année au même endroit.
Bien sûr. Merci beaucoup Pierre Rigaud pour toutes ces explications. Une petite pause et on se retrouve dans quelques minutes.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Et dans vos animaux, on va enchaîner ce matin avec notre séquence des mots des animaux, MOTS. Et alors aujourd'hui, Joël, vous allez nous expliquer l'origine de l'expression « ne pas valoir un pet de lapin ».
Exactement,
je suis curieuse d'en savoir plus.
Alors, ne pas valoir un pet de lapin qu'on utilise pour dire « ça ne vaut rien du tout, ça n'a aucun intérêt », etc. Alors, l'expression ne date que de la fin du 19e siècle, en fait. Mais avant, au XVIIIe siècle, on trouvait une autre expression qui était « ça ne vaut pas un pet de coucou ».
D'accord.
Alors ça, c'était vraiment très étonnant, ça ne vaut pas plus cher. Alors, je ne sais pas pourquoi, en fait, ce mépris, là, pour ces petites formes quand même très discrètes d'expression, ça devrait quand même valoir de l'or, hein, d'être si discret. Eh bien non, peut-être qu'à l'époque, je ne sais pas, on préférait peut-être quelque chose de plus affirmé, de plus vigoureux, voilà. On ne sait jamais. Hein. Alors, chez les Américains, si vous voulez savoir, l'expression
on est curieux de savoir,
change.
Oui.
Parce que vous voulez toujours savoir comment on dit en anglais ou
en anglais, voilà.
Alors, le lapin et le coucou sont remplacés par un insecte.
Ah bon ?
Oui, aux flatulences encore plus imperceptibles, si je peux dire. Le moucheron.
Tiens donc, ça ne vaut pas un pet de moucheron.
Oui, un moucheron, ça ne vaut pas un pet de moucheron, c'est rigolo. Alors là, on atteint quand même un summum d'évanescence, si je peux dire. Mais enfin, vous me direz, tout ça, c'est que du vent, hein. Bon.
Bravo, Joël.
Bon, et c'est
allez,
vrai.
Revenons à nos lapins.
Voilà, alors, le lapin, il est tenu pour un animal de second rang, aussi dans l'expression « en peau de lapin ».
Oui.
Alors, c'est une expression qui viendrait de la région de Rennes.
Ah bon ?
C'est ce que j'ai
attention,
dans mes
parce
recherches.
Que nos auditeurs bretons vont nous appeler en
alors
disant « mais
dit
c'est
ça.
Quoi ?»
bon. Alors, en fait, les peaux de lapin qui sont abordables remplaçait, et remplace encore d'ailleurs quelquefois, les fourrures plus recherchées comme le renard.
Bah nous, on préfère la fourrure synthétique hein, dans vos animaux.
Exactement, nous, c'est niette. Hein. Donc, et ces peaux de lapin, on les a même appelées à l'époque les visons de clapier. C'est joli comme expression, ça. Hein. Et puis, il y a eu les chansonniers qui ont qualifié de manière assez méprisante certains politiciens du Front populaire de socialistes en peau de lapin, c'est-à-dire, l'expression s'est installée, ça veut dire à la gomme, à deux balles, aux petits pieds, etc. Donc c'est quand même assez, assez péjoratif. Donc on l'a vu, notre petit lapin, il est déconsidéré, parce que soit dans un cas, ça ne vaut pas un pet de lapin, son sillage est trop discret, comme on dirait en parfumerie, et dans l'autre cas, c'est sa fourrure qui est trop discrète. Voilà.
Pauvre mais, lapin. Ouais, mais laissons-les tranquilles, oui, ces petits lapins. Ouais,
il faut les laisser tranquilles. Nous, on les aime bien. Hein. On en mangerait presque.
Ah non.
Si, tellement ils sont adorables de lapins, bien sûr.
Oh, bravo, Joël. Je ne savais pas où vous vouliez en venir, mais ça y est, j'ai compris. Merci en tout cas pour toutes ces explications. Allez, c'est l'heure de C'est votre histoire maintenant.
Vos animaux sur Sud Radio, c'est votre histoire.
Et ce matin, dans C'est votre histoire, on va vous raconter justement une histoire incroyable, celle qui émane de la volonté d'un homme, Patrick Violas. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Patrick, vous avez eu une idée qui peut paraître un peu folle, mais qui devient une réalité, donc elle n'est pas si folle que ça. Vous avez souhaité créer un zoo-refuge à la fois pour animaux de compagnie et aussi pour faune sauvage. Ça se passe près de Chartres, à Nogent-le-Fay, plus précisément. Racontez-nous votre histoire.
Eh bien, nous existions en ferme pédagogique depuis une dizaine d'années, avec des animaux domestiques, chien, chat, aussi vache, mouton, cochon, chevaux, etc. Avec la particularité que tous ces animaux étaient issus de sauvetage, de récupération, de maladies, de mauvais traitements, de problèmes sociaux. Et au fur et à mesure des rencontres, parce que vous le savez mieux que moi, dans le monde animal, on fait des rencontres extraordinaires.
C'est vrai.
On a rencontré Florence Olivier-Courtois, qui est là, je crois.
Oui, et, bonjour Florence.
Bonjour.
Florence est avec nous par téléphone également, puisque Florence, vous êtes à pied d'œuvre auprès des animaux en ce moment.
Exactement.
Florence, vous êtes vétérinaire. Vous êtes une vétérinaire assez connue dans le milieu de la faune sauvage, où vous êtes beaucoup occupée justement d'animaux sauvages. Et vous allez participer à ce projet avec Patrick. Vous allez nous expliquer tout cela tout à l'heure. Mais donc Patrick, revenons à la genèse de ce projet incroyable.
Oui, donc là, la rencontre avec Florence il y a quelques années, la rencontre il y a presque 4 ans maintenant avec un couple de gens extraordinaires, travaillant avec quelques animaux pour des cirques, mais voulant absolument sortir de ce système, aimant leurs animaux plus que tout. Voilà, on avait une équipe qui était née, il y avait ces deux personnes, Paolo et Lisa, il y avait Florence, il y avait mon équipe, mon épouse et moi-même, nous étions 5, une vraie équipe, et on a dit, on bascule notre association ferme pédagogique en refuge, et plus tard, dans un an, en zoo-refuge. Alors pourquoi en zoo? Pour deux raisons principalement. La première, c'est la pédagogie, pour expliquer aux gens ce que l'on fait et ce que l'on ne fait pas avec des animaux sauvages ou domestiques.
Oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, la particularité de votre projet, c'est des refuges pour animaux de compagnie. Il y en a beaucoup, malheureusement, parce que les besoins sont immenses. Mais vous allez aussi accueillir des animaux appartenant à la faune sauvage qui vont provenir de différents endroits, des cirques, par exemple, des saisies, etc. Et ça, il y a très peu de lieux d'accueil en France pour ces animaux-là. Il y en a, mais pas beaucoup et pas assez.
Exactement. Donc aujourd'hui, nous avons déjà des ours, des otaries, des wallabies, des chevreuils, des daims. Il y a énormément de demandes. Et depuis, en plus, qu'on a commencé à communiquer sur notre projet, on croule sur les demandes. Des centaines d'animaux attendent dans des cages derrière des grilles de venir chez nous. Nous allons recevoir également début mars nos premiers primates issus de sortant de laboratoire. Alors attention, dans tout ça, nous, jamais, on ne juge la provenance et ce que les gens ont fait ou pas. Bon, c'est pas notre souci. Notre souci, c'est qu'il y a des gens qui s'occupent de ça. Il y a un constat, il y a des primates qui sortent de laboratoire, il y a des animaux qui sortent de cirque, il y a des animaux qui souffrent. Nous, on est là pour prendre le relais et les aider.
Alors j'imagine que, vu l'ambition du projet, ça a dû être un petit peu compliqué à mettre en œuvre. Expliquez-nous où ça va se situer et quelle est l'importance en fait des installations que vous êtes en train de créer.
Alors, ça se situe tout près de Chartres, à 300 mètres de Chartres, dans une commune qui s'appelle Nogent-le-Fay, aux sorties de l'autoroute, c'est-à-dire à trois quarts d'heure de Paris. Nous sommes sur une superficie de 20 hectares pour l'instant, mais avec des possibilités d'agrandissement et puis surtout des possibilités de créer à différents endroits, pas très loin de chez nous, des sites pour pouvoir aussi relâcher, hors visite ce coup-là, mais pouvoir relâcher certains animaux de la faune sauvage locale. Voilà. Donc ça demande beaucoup d'installations. On a 47 bâtiments à construire en tout. On a aujourd'hui construit ce qui était le plus urgent.
Oui, vous avez commencé les constructions.
Oui, il y a un an et demi, deux ans déjà. Notre clinique vétérinaire pour Florence, on va voir, enfin pour Florence, pour ses patients, pour ses pensionnaires.
Oui, on avait compris.
On va avoir une clinique vétérinaire à la pointe de la technologie, un énorme bâtiment de quarantaine et je crois le seul bâtiment quarantaine primate en France qui est très important. Ça c'est fait, notre éléphanterie est terminée, nos enclos ours sont quasiment sont terminés. On va attaquer aujourd'hui, on est en train de faire en ce moment tous les enclos, félins, primates, etc. On a en tout 47 bâtiments à construire. Quand on ouvrira au public la première partie au printemps 2020, on aura à peu près les deux tiers de tout ça de construit.
Comment vous arrivez à financer un tel projet? Parce que ça coûte très cher de créer des installations qui nécessitent beaucoup de rigueur, notamment dans la sécurité, pour installer ces animaux.
Oui, tout à fait. Ça coûte cher et c'est compliqué. On a travaillé pendant 3 ans en réunion toutes les semaines pour pouvoir déposer notre dossier et obtenir notre autorisation de dossier ICPE, c'est-à-dire établissement classé pour la protection de l'environnement. Tous les feux maintenant sont ouverts. Après, ça coûte beaucoup d'argent. C'est, alors, moi, j'ai eu la chance de réussir la première partie de ma vie professionnelle. Donc, voilà, c'est notre aide à mon épouse et à moi-même. On a donné longtemps pour les humains. Et si on a la chance de réussir, ben, il y a un moment où il faut rendre.
Quelle est votre motivation profonde pour vous lancer dans un tel projet? Parce que finalement, il y a diverses manières d'aider le monde animal. Vous avez choisi une manière très particulière et très belle, mais... Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous motive tous les matins quand vous devez batailler pour créer tout cela ?
Ce qui nous motive, c'est que voilà, on sait qu'on va recevoir dans la journée ou le lendemain un appel pour un animal en détresse quelque part. Il y a un peu d'adrénaline dans tout ça et on va aider ceux qui peuvent le moins s'en sortir tout seuls. Les animaux font partie de l'humanité. S'il n'y a plus d'animaux demain, on n'est plus là non plus. Et eux n'ont pas d'organisation. Ils sont bien plus nombreux que nous sur Terre et n'ont pas d'organisation pour se soigner. Il existe des technologies que nous, on a mis au point, nous, humains, pour soigner, opérer, guérir. Faut faire profiter ces êtres-là aussi. C'est de l'amour, c'est d'amour des animaux. Et croyez-moi, Florence vous le dira mieux que moi, quand on a battu pendant toute une nuit à tenir la perfusion pour sauver un animal et le lendemain matin il se relève, je vous promets que ça vaut tout l'or du monde.
Alors justement, on va donner la parole à Florence Olivier Courtois. Florence, donc je le disais tout à l'heure, vous êtes vétérinaire, vous allez donc travailler sur ce zoo-refuge. Quels vont être les pensionnaires que vous allez prendre en charge ou que vous avez déjà commencé à prendre en charge?
Donc on va recevoir des animaux en fait d'origine de placements sociaux par exemple ou de placements légal, mais aussi de placements médicaux, d'où l'intérêt d'une clinique très équipée. Bien sûr, tous les pathologiques sont équipés d'une clinique, ne serait-ce que pour prendre soin des pensionnaires, mais on a aussi un objectif extrêmement médical, d'où un équipement de pointe et très voilà.
Donc l'idée, c'est de recevoir des animaux qui viennent de cirque, des animaux de saisie, des animaux de laboratoire.
Voilà, donc malheureusement, les possibilités de placement sont énormes. Soit ce sont des placements volontaires de personnes qui veulent cesser leur activité et qui doivent trouver un emplacement pour leurs animaux. Ça peut être aussi effectivement des placements d'origine légale pour des détentions illégales avec des saisies. C'est aussi des établissements qui doivent refaire des infrastructures qui nécessitent un placement de longue durée de tout un... tout un troupeau, de tout un groupe d'animaux, par exemple des primates. C'est pas facile de trouver donc une structure qui puisse héberger à ce moment-là tout un groupe de primates en une seule fois pour que eux-mêmes puissent après une belle installation conforme.
Merci en tout cas. Je suis désolée, je suis contrainte de vous interrompre. Merci en tout cas pour ces explications et vraiment longue vie à ce beau projet. On en reparlera évidemment dans Vos Animaux. C'est le zoo refuge de la Tanière. Ça va se passer. Ça se passe près de Chartres à Nogent-le-Fay. Voilà, c'est la fin de Vos Animaux pour cette semaine. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec un très beau programme. On parlera des orques avec une personne, un aventurier qui nage au milieu des orques. Vous verrez ça, c'est passionnant.
Sud Radio, Vos Animaux.
Avec Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com.